voici une question des plus intéressantes. Est-ce qu'Adam était un être mortel quand Dieu l'a créé? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse claire, mais surprenante pour quelques-uns, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On est porté à lire assez vite quand on arrive au livre des Chroniques. Et pourtant, suite à l'enseignement qu'on va recevoir aujourd'hui dans ce livre, je crois qu'on va réaliser qu'il contient réellement de belles perles. Voici nos questions. Est-ce que le premier et le deuxième livre des Chroniques sont simplement une répétition des autres livres historiques? Jusqu'où vont les généalogies dans le premier livre des Chroniques? Est-ce que la Bible démontre des preuves que Jésus n'était pas le fils naturel de Joseph et qu'il est né d'une vierge? Est-ce que nous descendons tous d'Adam? Est-ce qu'Adam était un être mortel quand Dieu l'a créé? Comment est-ce que la Bible définit la mort physique, la mort spirituelle et la mort éternelle? Est-ce qu'Adam et ses descendants sont tous des pécheurs? Est-ce que les pécheurs peuvent tous obtenir le pardon de leurs péchés? Parmi les croyants, y a-t-il plus de héros que ceux qui sont mentionnés dans la Bible? Est-ce que les héros de la Bible étaient tous des rois et des personnages importants? Demeurez avec nous. Le pasteur et Jean Joly vont nous donner les réponses bibliques à toutes nos questions dans quelques instants. Mais premièrement, allons dans la présence de Dieu. Prions. Oui, c'est bon, Seigneur, d'aller dans ta présence. C'est bon d'être dans ta présence. Il n'y a rien de mieux, Seigneur, que de goûter à ta présence et de savoir que c'est toi qui parles à nos cœurs. Parle-nous en ce moment. Dirige-nous dans cet enseignement, qu'on puisse vraiment bien comprendre ton beau message d'amour pour nous. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Chers amis, 1 et 2 Chroniques sont plus qu'une répétition des autres livres historiques. Oui, aujourd'hui, nous débutons l'étude des deux livres des Chroniques. Les deux livres sont semblables de plusieurs façons. Ils couvrent la même période historique que les livres de Samuel et les livres des rois, soit de Saül à Sédécias. Est-ce que les livres des Chroniques sont une répétition des livres des rois? Certainement pas. Les traducteurs grecs ont appelé les livres des Chroniques les omissions, ce qui était un bon titre, mais il était cependant inadéquat. Les livres des Chroniques contiennent davantage que des éléments omis dans les autres livres historiques. Ils sont un exemple de répétition et de récapitulation. En nous donnant la parole de Dieu, le Saint-Esprit donne de nombreuses vérités et traite de beaucoup de matières. Ensuite, il revient à certains éléments qu'il développe davantage. Le Saint-Esprit nous laisse voir l'ensemble du paysage avec une paire de jumelles et ensuite il choisit une petite portion qu'il nous fait examiner au microscope. C'est ce qu'il fait dans 1 et 2 Chroniques. Nous avons déjà vu le Saint-Esprit fonctionner ainsi. Dans le livre de la Genèse, le deuxième chapitre revient sur le récit de la création pour nous renseigner davantage sur la création de l'homme. Ce sujet est important pour nous, car nous sommes de la race d'Adam. Nous avons aussi l'exemple du livre de Deutéronome. Ce livre, dont le titre signifie « deuxième loi », n'est pas une simple répétition de la loi, mais une interprétation de celle-ci à la lumière d'une expérience de 40 ans dans le désert. Dans les livres des Chroniques, Dieu repasse la matière vue dans les 4 autres livres historiques en y ajoutant des détails et en mettant l'accent sur des éléments qu'il considère importants. Voici quelques exemples qui illustrent l'énoncé que je viens de faire. Dans 1 Chronique, l'accent est placé sur le roi David, et dans 2 Chroniques, sur la postérité de David. lorsque le royaume d'Israël se divise en deux, le royaume du Nord est presque entièrement ignoré. Les livres des chroniques ne rapportent pas le péché de David. Pourquoi? Bien, Dieu a pardonné le péché de David et il n'en parle plus. Lorsque Dieu pardonne, chers amis, il oublie. Dans les livres des rois, tout orbite autour du trône. Dans les livres des chroniques, le centre de gravité est l'autel. Dans les livres des rois, le palais est le lieu central. Dans les livres des chroniques, c'est le temple. Les livres des rois racontent l'histoire politique de la nation, alors que les livres des chroniques présentent l'histoire religieuse. Les livres des chroniques interprètent les livres des rois. Dans les livres des rois, nous lisons souvent cette phrase. Cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Les rois examinent l'histoire d'un point de vue humain, alors que les livres des chroniques le font du point de vue divin. Esdras est probablement l'auteur des livres des chroniques. Le style et le langage des livres ressemblent énormément à ceux des livres d'Esdras et de Néhémie. Il semble que les livres des chroniques aient été rédigés pendant la captivité babylonienne. Les deux livres des chroniques formaient un seul livre à l'origine, et ce livre contenait aussi le livre d'Esdras et le livre de Néhémie. Ceci semble confirmer la tradition juive qui affirme qu'Esdras est l'auteur des livres des chroniques. Les 9 premiers chapitres de 1 chronique contiennent des généalogies, et d'une certaine façon, c'est un des passages les plus remarquables de la Bible. Voyez comment il débute. 1 chronique, chapitre 1er, versets 1 à 4. Adam, Seth, Enoch, Kénan, Mahalaleel, Jéred, Enoch, Métushéla, Lémec, Noé, Sem, Cham et Japhet. Nous avons ici la liste des personnages bibliques mentionnés dans les 8 premiers chapitres de la Genèse. Les généalogies retracent la lignée choisie d'Adam jusqu'à Jésus-Christ. Vous noterez aussi que ce livre suit la même procédure que le livre de la Genèse. Lorsqu'une généalogie est donnée, l'auteur commence toujours par la lignée qui sera rejetée par Dieu, et il termine par la lignée qui, plus loin dans les Écritures, conduira jusqu'au Seigneur Jésus-Christ. Après le verset 4, la généalogie se poursuit avec la descendance de Japhet, ensuite celle de Cham, et finalement celle de Sem. La généalogie se poursuit avec la lignée de Sem seulement, et elle se rend jusqu'à Abraham. Puis, c'est la postérité d'Abraham qui est enregistrée. Ismaël et ses fils, suivis des enfants qu'Abraham eut de Kétura, et finalement, les fils d'Isaac. La généalogie se poursuit avec la descendance d'Isaac en commençant par Ésaü. Cependant, c'est la lignée de Jacob qui sera suivie jusqu'au Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Les chapitres 2 à 9 présentent la postérité de Jacob. Au verset 15, nous voyons des fils d'Isaïe, dont David. Ce sera la lignée de David qui sera suivie parce que le Seigneur Jésus sera un fils de David. Le chapitre 3 énumère les fils de David et nous constatons que certains de ses fils ne sont pas mentionnés dans les livres de Samuel ou les livres des rois. Faisons la lecture de ce 5e verset du 3e chapitre d'un chronique. Voici ceux qui l'eut naquirent à Jérusalem, Shiméa, Shobab, Nathan et Salomon, 4 de Bathshua, fille d'Amiel. Avez-vous déjà entendu parler de Shiméa et de Shobab? Nous connaissons bien Salomon, mais qui est Nathan? Bien. Si vous examinez la généalogie du Seigneur Jésus qui se trouve dans l'Évangile selon Luc, vous verrez que la lignée se remonte à David en passant par Nathan plutôt que par Salomon. La lignée de Marie, qui est une descendante de David, passe par Nathan, alors que la lignée de Joseph passe par Salomon. Donc, le Seigneur Jésus avait un droit légal au trône parce que la lignée de Joseph remontait à David en passant par Salomon, et il était un descendant naturel de David parce que la postérité de Marie passait par Nathan. Le Messie devait être un descendant naturel de David. Ce détail est important parce que parmi les descendants de Salomon, nous retrouvons Jéconia, duquel Dieu a dit « Car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. » Jérémie, chapitre 22, verset 30. Donc, il y a un bris dans la ligne qui descend jusqu'au Messie. Ce qui est une autre preuve que Joseph ne pouvait pas être le père naturel de Jésus et que Jésus devait naître d'une vierge. Le chapitre 4 énumère la postérité de Juda en passant par Caleb et Shéla. Il donne aussi la postérité de Siméon. Le chapitre 5 trace la descendance de Ruben jusqu'à la captivité. Lisons ces deux versets. 1 Chronique, chapitre 5, versets 1 et 2. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né, mais, parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Juda fut, à la vérité, puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince, mais le droit d'aînesse est à Joseph. Nous voyons que c'est Joseph qui a hérité du droit d'aînesse perdu par Ruben. Cependant, Juda devint puissant, et c'est de lui que fut issu un prince. Les descendances de Gad et de la demi-tribu de Manassé sont aussi énumérées. Le texte confirme aussi que ces tribus sont allées en captivité pour s'être adonnées à l'idolâtrie. Le chapitre 6 donne la généalogie de la tribu de Lévi, la tribu des sacrificateurs. Le chapitre 7 donne les généalogies des tribus de Issachar, de Benjamin, de Naphtali, de Manassé, d'Éphraïm et d'Aser. Ces tribus furent amenées en captivité par le roi d'Assyrie. Le chapitre 8 trace la généalogie de la descendance de Benjamin établie à Jérusalem, spécialement la descendance de Saül et de Jonathan. Les généalogies se terminent au chapitre 9. Le premier livre des Chroniques contient la plus longue généalogie de la Bible, et nous ne trouvons pas d'équivalent nulle part ailleurs. Dans la Bible, nous pouvons tracer la lignée d'Adam jusqu'au Seigneur Jésus-Christ. Du premier Adam jusqu'au dernier Adam. C'est la plus grande généalogie qui existe. Elle démontre que tous les humains appartiennent à la même famille, même si nous ne pouvons pas remonter notre généalogie personnelle jusqu'à Adam. En effet, lorsque Titus détruisit le temple en l'an 70, il brûla les généalogies. Cependant, nous pouvons retracer nos origines jusqu'à Adam de façon générale. Certains d'entre nous descendons de Japhet, d'autres de Cham et d'autres de Sem, mais nous descendons tous d'Adam. Les omissions des généalogies sont intéressantes. Caïn et sa famille ne sont pas mentionnés. Il n'est pas mentionné parce que sa lignée s'éteignit au déluge, dont nous avons le récit dans Genèse chapitre 7. Je pense aussi qu'il y a des omissions dans toutes les généalogies, même dans celle de la Genèse. Ceci pourrait aider à répondre à la question au sujet de l'âge de l'humanité. Quand est-ce qu'Adam fut créé? De nombreuses personnes pensent que l'humanité a beaucoup plus que 6000 ans. Quoi qu'il en soit, lorsqu'il fut créé, Adam était un homme, pas un hominidé ou un mammifère primate. L'homme qui habite la Terre depuis quelques millénaires ne progresse pas. Voici trois vérités universelles au sujet de l'homme. Adam et ses descendants doivent mourir. Premièrement, Adam et ses descendants doivent mourir. Dieu a dit à Adam, « Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Genèse, chapitre 2, verset 17. Cependant, lorsque Adam fut créé, il n'était pas un être mortel. Les Écritures affirment, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ici la mort s'est étendue sur tous les hommes. Romains chapitre 5, verset 12. La Bible dit aussi, comme tous meurent en Adam, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22. Nous lisons aussi « Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois » Hébreux chapitre 9, verset 27. La planète sur laquelle nous vivons est un vaste cimetière. Sur son lit de mort, David a dit « Je m'en vais par le chemin de toute la terre. » 1 Roi, chapitre 2, verset 2. « Tous les chemins mènent à la mort. » Le verset « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. » Le psaume 23, verset 4. Décrit la vie de tout homme. Comme un monstre, la mort rôde sur cette planète. Il y a trois sortes de morts. La mort physique, la mort spirituelle et la mort éternelle. Adam est mort physiquement environ 900 ans après avoir mangé le fruit défendu. Cependant, spirituellement, il est mort instantanément. La mort, c'est la séparation. La mort physique est la séparation du corps et de l'esprit. La mort spirituelle est la séparation de l'homme et de Dieu. La mort éternelle est aussi la séparation de l'homme et de Dieu, mais cette séparation de Dieu est maintenant éternelle. C'est ce que sera l'enfer, un endroit que Dieu ne visitera pas, mes amis. Il n'y aura ni bénédiction, ni miséricorde, ni amour de Dieu à cet endroit. Adam et ses descendants sont tous pécheurs. Deuxièmement, Dieu nous dit « tous ont péché ». Le fait que nous mourrons tous est la preuve de la véracité de cet énoncé. Nous avons tous péché et nous sommes tous morts en Adam. Abraham était un homme bon, mais il a péché. La naissance d'Ismaël le prouve. Caleb était un homme bon et extraordinaire, mais il eut une concubine. Le péché éloigne l'homme contemporain de Dieu. Il se rebelle ouvertement contre Dieu. Tout comme Caïn, il a fui la présence de Dieu. Nous devrions tous lire le chapitre 59 du prophète Ésaïe. Permettez que je vous en cite un verset. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ésaïe, chapitre 59, verset 2. Adam et ses descendants sont des pécheurs séparés de Dieu. Le péché est un fléau, une maladie, une plaie qui a infecté toute la race humaine, mes amis. Avoir le cœur malade n'est pas plaisant, mais seulement une fraction des cardiaques ont une crise. Un cancer est une maladie atroce, mais il ne frappe pas tout le monde. Cependant, tous ont péché. Il n'y a qu'une seule grande exception, le Seigneur Jésus-Christ. Il n'avait pas besoin de mourir, parce qu'il était sans péché. Il s'est tenu devant ses ennemis en disant, « Qui de vous me convaincra de péché ?» Jean chapitre 8, verset 46. Personne a relevé ce défi. Il a affirmé, « Personne ne me l'ôte ma vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Jean, chapitre 10, verset 18. Oui, chers amis, le péché est universel. Le Seigneur Jésus étant la seule exception. Nous avons tous péché, sauf lui. Il est possible pour Adam et ses descendants d'obtenir miséricorde. Voilà la bonne nouvelle. Troisièmement, il est possible pour Adam et ses descendants d'obtenir miséricorde. S'il n'en était pas ainsi, nous serions les plus malheureux des hommes. Enoch fut sauvé. Pourquoi? Il a placé sa foi en Dieu. Noé était un homme bon, mais ce n'est pas ce qui l'a sauvé. C'est par la foi que Noé construisit l'arche et sauva sa famille du déluge. Abraham était aussi un homme bon, mais il pécha. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. En ayant Ismaël, l'ancêtre des Arabes, par sa servante égyptienne, Abraham a péché, et les conséquences de ce péché se font encore sentir aujourd'hui. David était un homme de Dieu, mais nous connaissons tous son péché. Dieu lui a cependant pardonné. Dieu est riche en miséricorde. Paul a dit aux Éphésiens, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Éphésiens chapitre 2, versets 4 et 5. L'apôtre Pierre a dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ afin qu'Adam et ses descendants puissent obtenir miséricorde. Laissez-moi vous poser cette question. Avez-vous accepté cette miséricorde que Dieu vous offre? Il est encore temps de le faire. Son offre tient toujours. Cette généalogie démontre que nous faisons partie de la famille d'Adam. Si la généalogie d'Adam était prolongée avec toutes ses branches, notre nom y serait inscrit. Nous sommes tous de la même race et nous avons tous des natures pécheresses. Nous sommes tous nés égaux. Nous avons tous péché et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Et celui-ci propose un salut à toute l'humanité. La Bible nous parle beaucoup des hommes de Dieu, des prophètes, des hommes que Dieu a suscités pour gouverner ou juger son peuple, les hommes que Dieu a placés sur le trône de la nation et des chefs religieux. Quelques héros sont mentionnés parce qu'ils se sont levés pour servir la nation, dont de nombreux hommes vaillants, tels que David. Cependant, il y a des milliers de personnes qui devaient aimer Dieu et être reconnues pour leur foi parmi le peuple. Ces femmes ou ces hommes de foi ne sont pas mentionnés dans la Bible. Ils n'ont pas marqué l'histoire. Cependant, ils ont marqué leur entourage par leur foi. Nous lisons dans 1 Chronique, chapitre 4, verset 10. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, « Si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. N'est-ce pas intéressant? Voilà un homme qui n'est pas connu comme un roi, juge, chef religieux ou chef militaire, ou même comme prophète. Cependant, celui qui a rédigé cette liste ne peut s'empêcher d'ajouter une remarque au nom de Jabez. Il ne peut se contenter de citer le nom. Vous, lorsque vous aurez quitté ce monde, les gens de votre entourage souligneront-ils votre amour pour le Seigneur? Aurez-vous été un canal par lequel Dieu a fait déborder son amour? Si ce n'eût été la foi de Jabez, nous n'aurions jamais entendu parler de lui. Les généalogies et de nombreux autres détails administratifs de la Bible démontrent que c'est dans un contexte historique que Dieu s'est révélé. Les généalogies étaient des registres. La Bible n'est pas un recueil de mythes, d'histoires qui parlent de personnages imaginaires et qui se déroulent dans des endroits inconnus. La seule façon que nous avons de connaître Dieu, c'est qu'il se révèle à nous. Notre intelligence limitée ne peut pas comprendre un Dieu infini dans ses perfections. Nous savons que Dieu s'est révélé aux hommes et à la nation d'Israël en particulier, car cette révélation s'est produite dans un contexte historique, pas dans un endroit vague, nébuleux et inaccessible. Nous savons où se trouve Ur, le pays de Canaan, Sodome et Gomorre, l'Égypte, Jérusalem, Bethléem, Nazareth, Hébron, Damas, Tyr, Sidon. La Bible a servi de guide pour les premières recherches archéologiques. Nous voyons tout de même que nous appartenons à la race d'Adam et que le Seigneur est venu sauver cette race. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant 1 Chronique, chapitres 9 et 10.
Merci, Régent. Eh bien, c'est clair que le livre des Chroniques n'est pas seulement une répétition des autres livres historiques. Êtes-vous d'accord pour dire qu'on a reçu un bon enseignement au cours de la leçon d'aujourd'hui? Régent nous a parlé un peu d'un personnage que j'aime beaucoup. C'est mon ami Jabez. Je l'appelle mon ami parce qu'il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de faire un voyage à Cuba pour me reposer. Je suis partie toute seule, mais pas réellement seule, parce que le Seigneur est toujours avec moi. Et avant de partir, une amie m'a offert un cadeau. C'est un petit livre intitulé « La prière de Jabez », dont l'auteur est Bruce Wilkinson. Je crois que beaucoup de chrétiens ont lu ce petit livre qui a fait fureur il y a quelques années. D'ailleurs, il a été le numéro 1 sur la liste des best-sellers du New York Times. Je me souviens de mon premier matin à Cuba. J'ai décidé d'aller faire mon culte personnel avec Dieu sur le balcon de ma chambre d'hôtel, où il y avait une vue magnifique sur des palmiers, de belles fleurs et tout un paysage tropical. Et j'ai ouvert ce petit livre en demandant à Dieu de m'enseigner, de parler à mon cœur. Et dès la première page, je me suis mise à dévorer ce qui y était écrit. La prière de Jabez, ce qu'on peut lire dans le premier livre des Chroniques, au 4e chapitre, verset 10. Réjean nous l'a lu, mais j'aimerais le relire avec vous. Vous permettez? Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Mes amis, cette prière fait partie de mes prières quotidiennes depuis ce jour. Et Dieu m'exauce. C'est merveilleux. Il me bénit en étendant mes limites, c'est-à-dire en élargissant mon territoire dans deux ministères, spécialement celui de proclamer le salut. Un après-midi, j'étais à la maison et j'ai reçu un appel d'un des responsables de Trans World Radio. Et cet appel a été le début des négociations qui m'ont amené jusqu'ici à avoir la joie de vous parler de l'amour de mon merveilleux Sauveur. Mais je me souviens particulièrement de la deuxième journée de mon voyage, où l'auteur élaborait justement sur la phrase « Et que tu étendes mes limites ». Et cette même journée, j'ai décidé de m'offrir une excursion en catamaran. Il y avait une vingtaine de passagers à bord et seulement un couple de Québécois. Je me suis mise à parler avec eux, et en revenant d'une petite île que nous avions visitée, j'ai pu expliquer à la dame ce qu'il fallait faire pour avoir l'assurance d'aller au ciel après la mort. Elle était très réceptive. Je ne l'ai malheureusement jamais revue, mais je sais que Dieu a fait son œuvre dans son cœur et je pourrais fort bien retrouver cette personne au ciel un jour. Alors Dieu exauce cette prière. Il étend mes limites. Mes amis, ça vaut la peine de lire toute la parole de Dieu, même les généalogies. On peut réellement y trouver de belles perles. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et elle est une lumière sur nos sentiers.
Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous?
Mais qui es-tu, Réjean?
Ben, qui es-tu, Caro?
Eh bien, je vais commencer par qui j'étais. J'étais une jeune femme qui chantait toutes sortes de chansons populaires. J'avais des succès au palmarès et ma carrière menait bon train. J'étais malheureuse, j'étais sans Dieu dans le monde. Et un jour, Dieu s'est fait connaître à moi. Et j'ai accepté Jésus comme Sauveur, comme Seigneur. Et je suis devenue une enfant de Dieu. Je suis née de nouveau. Et maintenant, je suis une chrétienne évangélique qui aime propager l'Évangile de Dieu. Avec toi, Réjean, je passe partout au Québec pour annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce. À tous les gens qui veulent nous entendre, à tous ceux qui veulent s'intéresser à ce que Dieu veut pour eux, à connaître son amour pour eux. Alors, je vais avec toi, on va partout dans des déjeuners de l'espoir, et ici, à Radio Espoir, pour dire aux gens, Dieu vous aime et Dieu veut vous instruire, vous faire connaître sa sainte parole. C'est merveilleux.
Les gens aimeraient peut-être nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel.
www.radioespoir.ca ou l'adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, à demain.
C'est un rendez-vous. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.